Henri, donneur de voix numéro 318 de la Bibliothèque sonore, Grenoble, Isère. Extrait de la lettre de confinement numéro 33 d'Olivier Calon. C-A-L-O-N. Le mot du jour. Cheveux. Voilà un problème bien quotidien en ces temps confinés. Ils poussent, poussent, retrouvent leur couleur naturelle, et personne pour nous leur venir en aide. À vrai dire, ils sont ce que nous sommes, momentanément, plus libres et indisciplinés. D'abord, sous la forme chevelle, le cheveu vient du latin capillus. Au XVe siècle, l'expression « en cheveux » voulait dire « nu-tête », à une époque où le port du chapeau était la règle. Au XIXe siècle, se faire des cheveux signifiait se faire du souci, par allusion aux cheveux blancs. Quant à l'expression « avoir mal aux cheveux », elle voulait dire qu'on avait mal à la tête après avoir abusé de la boisson. L'ancienne forme « chevelle » a donné « échevelé », c'est-à-dire mettre la coiffure en désordre. « Chevelé » existait aussi pour signifier le contraire, mais il a disparu. Victime d'un coup de ciseau, allô, allô, allô Pessie, désolé, il n'y a plus de cheveux au numéro que vous avez demandé. Hippolyte Daumont. La pensée du jour, proverbe américain. Quand tu montes à l'échelle, souris à ceux que tu dépasses, car tu croiseras les mêmes en redescendant. Le poème du jour, La chevelure de Charles Baudelaire. Ô toison, moutonnant jusque sur l'encolure, ô boucle, ô parfum chargé de nonchaloir, extase, pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormant dans cette chevelure. Je la veux agitée dans l'air comme un mouchoir. Cheveux blancs, pavillon de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues. De l'huile de coco, du musc et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je hume à longs traits le vin du souvenir? Anecdote littéraire. Comment imaginer Simone de Beauvoir sans son turban? Ce qui est devenu un signe distinctif ne fut à l'origine qu'une réponse pratique à une nécessité. La première fois qu'elle en a porté un, ce fut lors de l'hiver 1939-1940. Le savon et l'eau chaude devinrent rares à ce moment-là, et beaucoup de femmes n'avaient pas la possibilité de se laver régulièrement les cheveux. Le foulard était alors la meilleure solution pour cacher ces derniers. Enseignante, Simone de Beauvoir opta pour le turban, plus pratique à porter à l'intérieur. Dans ses mémoires, elle écrira plus tard. En raison des coupures d'électricité, les barbiers travaillaient irrégulièrement et avoir de l'eau était une affaire d'État. Les turbans sont venus à la mode, je me convertis à eux. La première fois qu'elle envoya à Sartre une photo d'elle enturbanée, il lui répondit « Vous avez l'air d'une lesbienne, d'une cocaïnomane ou d'un fakir. » À l'automne 1943, Simone de Beauvoir espérait recevoir le prix Goncourt pour son livre « L'invité ». Le jour de l'attribution, elle se rend au Flore pour travailler, comme à son habitude, mais elle fait un effort vestimentaire, portant une robe bleue électrique confectionnée pour l'occasion, et remplace son turban habituel par une coiffure digne de l'événement, qui ne se produira pas, les jurés lui ayant préféré Marius Groux, que la postérité a oublié. Elle prendra sa revanche 11 ans plus tard, avec les mandarins, le turban sur la tête. Anecdote historique. Crésus, qui vécut au VIe siècle avant notre ère, était roi de Lydie, royaume grec d'Asie mineure. Il tirait d'énormes revenus de l'exploitation des sables aurifères du Pactole, cette rivière devenue non commun. Sa richesse était célèbre dans toute la région. Un jour, il reçut en son palais le législateur athénien Solon, réputé pour sa sagesse. Crésus fit, devant son hôte, la démonstration de ses richesses et lui assura qu'étant si riche, il était sûrement l'homme le plus heureux de la terre. Solon lui répondit « Nul ne peut être qualifié d'heureux avant sa mort. » De fait, les catastrophes s'abattirent ensuite sur Crésus. Un de ses fils fut tué à la chasse, un autre devint muet, lui-même fut sévèrement battu par le roi perse Cyrus. Condamné au bûcher, Crésus implora 3 fois avant de mourir le nom de Solon, dont il se remémorait la mise en garde. Cette histoire en forme de fable morale est contestée par les historiens. Quoi qu'il en soit, le nom de Crésus est passé à la postérité comme synonyme de richesse, pas de sagesse.